Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas non plus une lampe pour la mettre sous un seau, mais on la met sur son support et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que de la même manière, votre lumière brille devant les hommes, afin qu'ils voient votre belle manière d'agir et qu'ainsi, ils célèbrent la gloire de votre Père céleste. Amen.
Bonjour à tout le monde. C'est un plaisir d'être de si bonne heure et voir l'église remplie. Je crois qu'on devrait faire ça plus souvent, n'est-ce pas? C'est vraiment une joie pour moi d'être ici ce matin et de pouvoir participer dans un culte spécial pour la famille. Il y a quelque temps, quand on m'a demandé de prêcher pour aujourd'hui, on m'a dit que le culte, c'était le culte étape. Rappelez-vous, l'étape, élargir la tente, affermir les piquets, exactement. Et on a eu déjà quelques cultes là-dessus. Alors, je vous invite à ouvrir en Ésaïe 54, puisque c'est exactement le texte de notre projet que l'Église a adopté. Ésaïe 54 et le verset 2 qui dit « Élargis l'espace de la tente », donc « élargis la tente », « qu'on déploie les toiles de tes demeures, ne les ménage pas, allonge tes cordages et affermis tes piquets ». La tente est montée, elle est solide, on élargit petit à petit. Et la réunion que nous avons eue ce mercredi, ça montre vraiment que l'Église est en train de faire un effort pour élargir sa tente. On ne veut plus, même si c'est vrai que l'Église est petite, mais on veut continuer de grandir. C'est un pari que cette Église a fait. C'est aussi le moment d'avoir la joie. Nous avons vu comme c'est important que la joie puisse remplir la tente, qui puisse remplir le cœur de chacun des habitants de cette tente. C'est éventuellement maintenant le moment de la rendre plus jolie, plus belle, plus habitable, éventuellement plus confortable. Imaginons une tente ancienne, on mettrait éventuellement des tapis, des coussins, on mettrait des meubles, quelques meubles, pas trop, mais quand même quelques-uns, pour augmenter le confort. Mais à un certain moment, nous avons besoin de la lumière. Et vous aurez deviné avec tous les chants que nous avons chantés ce matin sur la lumière, que le thème du culte, c'est exactement sur la lumière. Et la lumière, pourquoi l'importance de la lumière? Nous vivons dans un monde en ténèbres, et plus grandes sont les ténèbres, plus important devient la lumière. Je crois que plusieurs d'entre vous avaient déjà marché dans la nuit à la pleine lune, les exploits, les tisons, dans les camps, quand nous faisons les pistes nocturnes, c'est toujours le moment le plus attendu. C'est le moment que tous les enfants sortent leur lumière et ça fait comme une bande de pyrilampes, de voir avec toutes les pyrilampes, lucioles, de voir toutes les petites lumières des exploits qui s'amusent. Et c'est toujours le moment d'apprendre aux enfants que si on n'utilise pas la lumière, c'est-à-dire si notre vue s'habitue aux ténèbres, plus facilement on arrivera à voir. Alors faire une piste quand c'est la pleine lune, c'est facile. Le problème, c'est faire la piste quand il n'y a pas de pleine lune, en pleine forêt. Là, c'est plus difficile. Ça, c'est le défi. Proverbe 4, versets 18 et 19, nous fait l'état sur l'état ou la différence entre la voix des méchants et la voix des justes. Proverbe 4, 18 et 19, Le sage va nous faire sentir, on va nous dire que le sentier des justes est comme la lumière resplendissante, dont l'éclat va croissant jusqu'au plein jour. Et verset 19, la voix des méchants, par contre, est comme les ténèbres. Ils ne savent pas ce qui les fera trébucher. C'est vrai que quand on marche dans les ténèbres et qu'on n'a pas une lumière, plus facilement on tombe, plus facilement on trébuche. Ce sont les actions des méchantes, des impies, qui sont les ténèbres. Un peu plus dans le Nouveau Testament, Éphésiens 5, on ne va pas lire tous les versets, je vous inviterai plus tard à le faire une fois à la maison. Éphésiens 5, du verset 3 au 21, l'apôtre Paul va faire la différence entre ce qui est les ténèbres et ce qui est la lumière. Alors je ne vais pas tout lire, seulement le verset 8 jusqu'au verset 12 qui dit « Autrefois, en effet, vous étiez ténèbres, mais maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière, car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté. » Et maintenant, nous commençons à voir qu'est-ce que c'est vraiment la lumière, comment les autres peuvent voir en nous la lumière. Et puis, il va citer « En toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur et n'ayez rien de commun avec les œuvres stériles des ténèbres, mais plutôt dénoncez-les. En effet, ce que les gens font en secret, il est honte même d'en parler. » Il continue de dire quelques exemples des œuvres de ténèbres, impureté, cupidité, les mensonges, la colère, le vol, l'oisiveté, l'amertume, la calomnie, la méchanceté. Et un peu plus en arrière, deux ou trois pages en arrière, en Galates au chapitre 5 et au verset 19 et 21, il nous dit aussi quelles sont, c'est un peu une extension, les œuvres de la chair qui sont évidentes, c'est-à-dire inconduite, impureté, débauche, idolâtrie, magie, hostilité, discorde, jalousie, fureur, rivalité, division, parti pris, envie, ivrognerie, orgie et choses semblables. Je vous préviens, comme je l'ai déjà fait, ceux qui se livrent à de telles pratiques n'hériteront pas le royaume de Dieu. Et que dire de l'état du monde actuel ? Jamais le niveau de criminalité a été aussi élevé. Des scandales à répétition, l'exploitation, pas seulement des mineurs, mais aussi des classes plus pauvres. Des maladies, les épidémies, les pandémies, et je pense notamment au sida, je ne peux pas m'empêcher de parler de ça, c'est mon côté ADRA, et je vous invite cet après-midi à venir à 3h où il y aura une réunion pour parler exactement qu'est-ce que c'est ADRA, qu'est-ce que ADRA fait. Mais tout le monde s'est beaucoup ému en 2005 quand un tsunami a tué 300 000 personnes en quelque temps. Sachez que chaque 3 mois, il y a un tsunami qui part du nord de l'Afrique et qui va jusqu'au sud et qui tue 300 000 personnes à cause du sida. Ce n'est plus une épidémie, c'est ce que nous appelons aujourd'hui une pandémie. La pauvreté, chaque 5 secondes, un enfant qui meurt de faim dû à des maladies. Les famines, les guerres. Je trouve les guerres la plus grande invention de Satan pour vraiment plonger le monde dans les ténèbres. L'injustice, les inégalités sociales, le monde qui devient de plus en plus riche, et en même temps de plus en plus pauvre, de plus en plus de monde qui est pauvre. Les débauches, la corruption, et la liste pourrait se continuer en parlant du Centrafrique, de la Syrie, du Soudan du Sud, de la Corée du Nord, l'Afghanistan, la Somalie. Le monde est de plus en plus en ténèbres. Et ça me fait penser à une pensée d'Ellen White que dans le livre « Le grand conflit », ou « La tragédie des siècles », la traduction en français, qui dit « Lentement mais sûrement, l'Esprit de Dieu se retire de cette terre. Et c'est dans ce contexte-là que Jésus nous lance un défi, d'autant plus important parce que les ténèbres sont de plus en plus épaisses. Et en Matthieu 5, versets 14 et 16, il va dire « Vous êtes la lumière du monde ». Quel privilège d'être la lumière! Quelle responsabilité en même temps! Parce que si dans un monde où il y a de la lumière, être une lumière, il n'y a pas beaucoup de sens, dans un monde en ténèbres, oui, c'est important. Vous êtes la lumière de ce monde. Quelques caractéristiques des lumières. Les lumières, elles servent à nous guider. Psaume 119, 105 nous rappelle que la parole de Dieu est une lampe qui nous guide dans le noir. Si nous pensons aussi aux bateaux, ils ont quoi pour leur guider à travers les dangers de la côte? Des phares. Encore une fois, la lumière. La lumière qui est un signal. Troisièmement, la lumière est utilisée pour combattre les ténèbres, pour exposer l'erreur. Quatrième, la lumière est utilisée pour prévenir le péché. Cinquième, la lumière produit de la croissance. C'est grâce à la lumière que les plantes peuvent grandir. Et sixième, les lumières ont pour fonction d'illuminer les ténèbres, non pas pour fonction d'illuminer pour sa propre gloire. Mais finalement, qu'est-ce qui est la lumière? Jésus nous dit que nous devons être la lumière. En Jean, au chapitre 8 et au verset 12, Jean 8, 12, Jésus leur parla de nouveau et dit « Moi, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera point dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Et dans le même livre de Jean, au chapitre 1er, les premiers versets, et je vais prendre du verset 4 jusqu'au verset 9, « En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. » La lumière brille dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont pas accueillie. Il y eut un homme envoyé par Dieu du nom de Jean. Il vint comme témoin pour rendre témoignage à la lumière afin que tous croient par lui. Il n'était pas la lumière, mais il vint pour rendre témoignage à la lumière. C'était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Alors, sommes-nous la lumière ? Ou est-ce Jésus la lumière? J'ai ici une bougie. Dieu nous appelle à être la lumière de ce monde. Jésus est la véritable lumière. Nous ne sommes que des reflets de la lumière de Jésus. C'est un peu comme la lune. La lune n'a pas de lumière propre et pourtant elle éclaire. On pourrait comparer que la véritable lumière, celui qui a capacité de produire lumière par soi-même, c'est Jésus. Lui est la véritable lumière. Et c'est seulement en fonction que je m'approche de la lumière, et il ne suffit pas d'approcher. Et je peux être même très proche. Ce n'est pas suffisant. Il faut que j'entre en communion. Communion, ça veut dire vraiment l'union, être ensemble avec la source de la lumière. C'est seulement à ce moment-là que je serai moi-même une lumière. D'où l'importance de, chaque jour, aller vers la lumière, d'avoir ce contact journalier avec la source de lumière. Et il se peut arriver que le vent, les aléas de la vie, parfois puisse éteindre ma lumière. Les problèmes, les critiques, le désespoir. D'où le besoin de nouveau de m'approcher chaque jour de la lumière. Et ce n'est que dans une relation journalière, continuelle, que je pourrais aussi être une lumière dans ce monde. Il y a plein de choses ici en bas. Hein. Quel type de lumière Dieu nous appelle à être ? Vous connaissez tous les feux de Bengale ou les bougies incandescentes. On aime tous être des lumières, c'est joli, elles brillent. Il y a des lumières qui, quand elles connaissent le Jésus, sont vraiment belles. Et elles éclairent, elles sont pleines d'enthousiasme, elles veulent faire plein de choses. Et c'est vraiment éclatant. Et c'est joli à voir des chrétiens dans notre église qui vraiment brillent et qui donnent ces éclats de joie. Cependant, ce type de lumière, parfois, peut avoir un problème. C'est que même si c'est joli, ça ne dure pas très longtemps. Et ça termine assez rapidement. Alors que l'autre lumière, peut-être qu'elle n'est pas aussi éclatante, peut-être qu'elle n'attire pas autant l'attention, mais pourtant, elle remplit son rôle. Elle illumine, elle éclaire dans la continuité. Vous êtes la lumière. Nous avons vu en Galates 5 quelles étaient les œuvres des ténèbres. Regardons un peu maintenant, par opposition, quelles sont les œuvres, les signes externes d'être une lumière. Et tout de suite après qu'il a, Galates 5 au verset 22, tout de suite après que l'apôtre Paul a parlé des œuvres des ténèbres, il nous va dire ce que nous pourrions appeler les œuvres de la lumière, c'est-à-dire le fruit de l'esprit est amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur, maîtrise de soi. La loi n'est pas contre de telles choses. Il y a quelques années, dans le siècle XIX, au XIXe siècle, en Angleterre, il y avait un gardien, qui était responsable d'assurer que la voie à côté d'un pont était libre pour que le train, chaque fois qu'il passait, puisse passer tranquillement. Le gardien avait la maison à côté de la voie, et un peu plus loin, il y avait le pont. Et ce jour-là, il avait beaucoup plu. La rivière était montée, c'était la nuit, le train passait à 11h30, et le gardien attendait patiemment que l'heure approche, que 11h30 puisse approcher pour qu'il puisse aller avec sa lampe faire signe que tout allait bien et que le train pouvait passer. À 11h20, il entend un bruit énorme. Et il sort au milieu de la pluie, de la tempête, il sort de sa maison et sa première pensée, c'est le pont. Et il se dirige vers le pont et dans la lumière d'un éclair, il voit avec horreur que le pont n'existe plus. À cause de la crue, à cause des arbres, à cause de la montée, le pont avait été emporté. Et à ce moment-là, il écoute au loin le train qui s'approche. Il n'a qu'une pensée, il faut que je prévienne du danger et que j'arrête le train. » Et il court vers sa maison, il prend sa lampe et il se dirige vers la voie de chemin ferré. Il se met au milieu et il lève sa lampe. Là, il sera vu. Sa lampe pourra montrer qu'il y a un danger. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi le conducteur ne s'arrête pas? Il continue d'avancer. Et il lève encore plus haut et il le balance et il fait signe. Mais est-ce que le conducteur, il dort? Est-ce qu'il ne voit pas? Et le fait est que le conducteur de train, le train ne diminue même pas la marche, mais il continue à toute allure vers notre bon gardien, qui pour sauver sa voie, aux dernières minutes, à la dernière seconde, au dernier moment, il est obligé de sauter, et le train qui passe vers le pont qui n'existe plus. Il y eut beaucoup de morts, il y eut un jugement, un procès, et notre gardien doit répondre devant le tribunal s'il a rempli ou non sa mission. Le jour arrive, il y a une grande foule qui veut suivre le jugement, et le juge va poser plusieurs questions au gardien. « Avez-vous bien pris votre lampe ?»« Oui, monsieur le juge. »« Avez-vous bien signalé le danger au conducteur du train ?»« Oui. »« Où est-ce que vous vous êtes mis ?»« À côté ou au milieu des voies ?»« J'étais au milieu des voies. »« Est-ce que vous avez seulement agité ou avez-vous vraiment élevé ?»« J'ai vraiment élevé. » Et à ce moment-là, le gardien commence à trembler. Et il n'arrête pas de trembler. L'avocat demande une interruption, le juge accorde ce délai, 30 minutes d'interruption, et le gardien avec l'avocat, ils vont dans une salle à côté, et l'avocat lui demande « Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tremblez-vous autant ?» Et il dit « J'ai peur. » Peur, mais... Avez-vous menti? Non. Avez-vous bien pris la lampe? Oui. Avez-vous vraiment levé la lampe? Oui. Alors de quoi avez-vous peur? J'ai peur que le juge me demande si ma lampe était allumée. Il se peut que nous fassions beaucoup d'efforts pour prévenir nos voisins. Notre famille. Mais est-ce que notre lampe est-elle vraiment allumée? Ce n'est qu'à travers un contact, et nous avons vu ça, journalier, constant, avec le Christ, que nous pourrons avoir notre lampe allumée. Je termine avec le verset, un passage de Ésaïe. Nous sommes toujours dans le prophète Ésaïe. Au chapitre 60, je vais lire les premiers quatre versets. Maintenant que la tente est élargie, maintenant que les piquets sont affermis, le prophète va nous dire « Lève-toi, brille, car ta lumière paraît, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi, car voici que les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples. » Mais sur toi l'Éternel se lève, sur toi sa gloire apparaît. Des nations marcheront à ta lumière, et des rois à la clarté de ton aurore. Porte tes yeux alentour et regarde. Tous, ils se rassemblent. Ils viennent vers toi, tes fils arrivent de loin, et tes filles sont portées sur les bras. Amen.